Je vais vous parler de l'Église. En fait, je vais vous parler de nous. Parce que l'Église est belle. Qui aime l'Église ici? Ouais, moi je pourrais mettre les quatre pieds. J'aime l'Église et vous allez voir que vous allez rigoler tout à l'heure quand tous ceux qui ont levé la main, vous allez vous marrer. Voilà, je vous parlais pourquoi je ne peux pas dissocier le mot disciple et église. L'église n'est pas un bâtiment. Hier, on était chez des amis, l'église où ils sont, ils vont essayer de... Ils vont peut-être bâtir, construire un bâtiment. Pour moi, ça, c'est secondaire. Ce qui m'importe, moi, c'est pas un bâtiment, même si c'est important de bien être installé le dimanche. Hein, mais ce qui m'importe, c'est ce que je suis au milieu de cette assemblée et au milieu du corps de Christ. Est-ce que vous connaissez d'où vient l'origine du mot église? Hein, c'est ecclesia, et qui veut dire assemblée, mais elle est dérivée d'un mot qui veut dire je convoque. Tiens, ça va un peu plus loin que de dire tu viens quand tu veux, garçon. Tu viens quand tu veux, ma fille. Quand Dieu dit je convoque, c'est différent. Est-ce que vous comprenez la nuance, la différence? Et à mon sens, je pense que l'église, c'est Dieu qui convoque son peuple et qui le rassemble pour manifester sa gloire. Là, j'ai une définition. Vous avez peut-être votre définition. Je suis sûr d'ailleurs que si on s'amusait à mettre un tableau blanc et chacun venait écrire sa définition de l'Église, on aurait des tonnes de définitions. Et à mon sens, c'est vraiment important de bien définir ce qu'est l'Église. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que aujourd'hui, il y a des gens qui redéfinissent l'Église. La période Covid a redéfini l'Église. J'ai entendu des enseignements de pasteurs qui, parce que le Covid est arrivé, se sont dit « l'Église, c'est plus ce que c'était. Ça ne doit plus être ça. » Par exemple, ils disent « l'Église, maintenant, c'est un rassemblement de personnes entre amis, c'est une Église. » Bien sûr, c'est une des définitions de l'Église, mais ce n'est pas la définition globale de l'Église. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire très attention parce que de la définition que vous avez de l'Église, ça va engendrer votre comportement au sein de l'Église. On est d'accord? Regardez. Ça va automatiquement engendrer ma manière d'être au sein de l'Église. Si, par exemple, vous avez une définition de l'Église, l'Église est le lieu de la grâce, et ça l'est. On est d'accord, on est sauvé par grâce, mais que la grâce. Vous allez avoir une notion peut-être de la sainteté qui sera diminuée et vous allez avoir, entre guillemets, une sorte de permission au péché qui va s'installer dans l'Église. Votre définition de l'Église va déterminer vos motivations. Si vous définissez l'Église comme étant le lieu de vos besoins, forcément, vous allez vous positionner dans le corps du Christ comme une personne qui va attendre que les autres fassent quelque chose pour vous. Et ça risque de basculer dans votre manière de faire. Par contre, si vous vous dites oh, « moi, j'ai tellement reçu de la part de Dieu, j'ai tellement reçu de grâce sur grâce, j'ai tellement vu que Jésus m'avait donné et qu'il m'invite à donner, je vais vraiment libérer tout cela sur les autres. » Et là, vos motivations seront liées à cette vision de l'Église. Ça va engendrer vos relations. Si pour vous, l'Église, c'est juste ce dimanche matin et tu fais une petite tape sur ton frère « je t'aime », eh ben, tu viendras que le dimanche matin et tu vivras que l'Église le dimanche matin. Par contre, si pour toi, l'Église est vraiment une famille, si pour toi, tu as en face de toi des gens que tu considères comme des vrais frères, des vraies sœurs, parce qu'on peut souvent dire frère, sœur. Non, on le fait ça. Mais quand je dis frère, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Je sais pas si tu as des frères, des sœurs. Moi, j'en ai plus de frères. Mais quand tu dis à ton frère, ouais. Quand tu dis à ton frère, frère, quand tu as ta sœur, quand c'est le sang, comme on peut dire, hein. Quand tu es lié par le sang, du même sang, c'est autre chose, quoi. Alors, je sais pas comment vous vivez vos relations fraternelles, frères, sœurs, dans votre famille. Moi, ça n'a pas toujours été folichon. Mais en tout cas, ma vision de l'Église, quand je suis rentré dans le royaume, il y a pas longtemps, j'ai découvert une famille. J'ai dit, je me souviens, ma Marise et moi, nous sommes rentrés dans cette église qui sentait le champignon à Mont-Saint-Barreul. C'était pas beau, il y avait des trucs qui tombaient. Tu as connu Eric, hein? Le mur allait s'effondrer presque, il a fallu l'abattre quelques mois après. Et Marise et moi sommes rentrés, on dit, c'est notre maison. Et forcément, ça va jouer sur ta consécration. Et forcément, ça va jouer sur tes priorités de vie. J'ai bien aimé le message de Geoffrey de la semaine dernière. Qu'est-ce qui te rend heureux? Voyez que votre définition de l'Église va déterminer ce que vous allez être en son sein. Et là, c'est de moi. Non, mais je valide. Vous pourrez marquer le 27 février 2022, Bruno Van Olmerch a fait cette citation. L'Église d'aujourd'hui dépend du disciple que tu es. Retenez ça. L'Église Betsalel dépend de qui tu es. Et ce que deviendra l'Église, ce que sera l'Église dans les mois, les semaines, dans les années, va dépendre du disciple que tu seras. Et c'est une déclaration forte dans mon cœur. Je ne sais pas si elle vous interpelle, vous, mais moi, quand Dieu m'a dit ça cette semaine, je dis, waouh, Seigneur, ça veut dire que ce que je sera l'Église deviendra-t-elle un lieu de trahison, un lieu où l'amour du plus grand nombre se refroidira, un lieu où les gens seront indifférents à la souffrance de ce monde, deviendra-t-elle cela à cause de moi? Mais je ne veux pas. C'est une grande responsabilité devant le Seigneur de devenir un disciple pour que l'Église devienne ce que Jésus a toujours voulu, une Église glorieuse, sainte, sans tache ni ride. Et on attend beaucoup souvent des responsables pour que l'Église devienne ça. En réalité, les responsables ne sont pas là pour faire de l'Église une Église sainte. Ça, c'est l'œuvre de la parole de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous. C'est bon, vous avez noté? Vous l'avez appris par cœur? Allez, je passe. Alors, je vais vous parler d'une rencontre prophétique. Une aventure prophétique. Vous savez que Marise et moi, nous avons fêté nos 40 ans de mariage, hein, il n'y a pas longtemps, au mois de décembre. 40 ans. Vous n'oublierez pas de féliciter Marise de m'avoir supporté pendant toutes ces années. Surtout, priez pour elle. Et donc, Marise, pour nos 40 ans, avait pris la décision, enfin, a pris la décision, si, c'est toujours comme ça, c'est elle qui décide où on va en vacances. Je dois dire que je lui confie ça parce que j'ai pas envie de m'en occuper. Mais quand elle m'a annoncé que nous allions aller en Norvège, au pôle Nord, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire, j'ai dit non, chérie, pas ça, s'il te plaît. J'ai horreur du froid. Mais elle dit, t'inquiète, on va s'équiper. Et dans notre semaine en Norvège, on avait prévu plusieurs activités. Marise voulait voir les aurores boréales, elle les a vues. Elle voulait aller voir les orques, on les a vues. Mais regardez, elle avait pris la décision c'est dans l'agence de voyage qui avait dit, on va vous faire du chien de traîneau. Donc nous sommes arrivés, le lendemain de notre arrivée, à Tromsø, là-bas. On a fait environ une heure et demie de bus, en minibus, et on arrive. On était environ 15 personnes. Et on arrive dans cet endroit, avec les chiens qui aboyaient de toutes parts. Et je me suis à un moment donné, donc on nous a équipés parce que là il fait ça pèle quoi, hein, d'accord. Et puis j'arrive, il y avait environ 70 chiens avec leur niche. Il y avait des chiens qui étaient déjà préparés avec les attelages. Les chiens aboyaient de toutes parts. Et j'arrive donc dans le lieu où il y a la nurserie, il y avait des petits bébés chiens. Alors moi j'ai un cœur tout mou quand je vois un bébé chien. Et je vais les caresser, etc. Je me retourne, je vois ce chien-là, Rock, il s'appelle, ce chien-là, debout, alors que tous les chiens étaient en train d'aboyer, ils gesticulaient. Lui était debout sur sa niche. Il me voit arriver. Je m'approche de lui. Il me regarde dans les yeux. Il descend et il fait ça. et il me fixe. Et ça, son regard ne s'est pas détaché de mon regard pendant une minute au moins. À tel point, il se passe quelque chose là, spirituellement. Au moment où il me regarde, j'entends clairement la voix de l'Esprit-Saint me dire « Observe et deviens comme lui ». Bon, je suis toujours un homme. Et j'ai pas de poils partout. Et je ne vous montrerai pas que j'en ai pas. Ce serait indécent. Mais, à tel point, je peux vous dire que c'était contre nature de ce qui se passait. Les mushers, donc les maîtres des chiens, et les touristes qui étaient venus avec nous, tout le monde s'est arrêté. Il y a eu un silence, je ne sais pas si le silence était réel, mais un silence divin qui est tombé. Et tout le monde a été surpris par ce qui était en train de se passer. Je dis, que se passe-t-il, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Il est beau, ce chien. Et puis, on a commencé notre parcours. Donc, on nous a amenés vers les traîneaux, les attelages. On nous a mis dessus et on est parti. Et là, le ciel s'est ouvert au-dessus de moi pendant une heure et demie. Et le Seigneur, je vais vous raconter que quelques petits trucs parce que je ne peux pas tout vous raconter. Mais il y a plusieurs choses que Dieu m'a dit. D'abord, il m'a dit, un, regarde, les chiens ne s'arrêtent pas pour faire leurs besoins. Ça nous a surpris, Marise et moi. C'est-à-dire que dès que l'orque dit « Hi !» Voilà, je dis « Allez les chiens, on avance !» Ils sont partis. Forcément, ils se mettent à courir, ça fait travailler les intestins. Et les chiens se sont mis à faire caca en courant. Essayez. Essayez, vous allez voir. Enfin si, moi, ça m'est arrivé une fois où j'étais un peu dérangé, ça marche. Mais ça ne marche pas. Et Dieu m'a dit à ce moment-là, quand tu es un disciple, est-ce que tu regardes tes propres besoins ou tu regardes d'abord les besoins des autres? Les chiens courent et ils sont en action et ils ne s'arrêteront pas pour satisfaire leurs propres besoins. Et ils font leurs besoins en tirant l'attelage. Pour eux, il est hors de question que l'attelage soit freiné à cause de leurs propres besoins. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et jamais l'attelage sera ralenti, freiné à cause d'eux. Et le musher, je peux vous le dire, peut sentir la bonne odeur de leur consécration. Ça sentait le caca. Oui. Mais, je ne sais pas comment tu as vécu ça, chérie, mais moi, j'en ai pleuré de joie. J'étais touché parce que même si j'ai pu sentir le caca de ces chiens, mes frères, mes sœurs, je peux vous le dire, je me suis dit, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? Quelle abnégation! Quel sacrifice de soi! Quel don de soi pour le bien commun! Alors, si tu veux être un disciple, arrête de satisfaire, de vouloir satisfaire tes propres besoins et recherche les besoins des autres. Alors, je vais vous donner un brin de conversation que j'ai eu dans mon trésor avec le Seigneur. J'ai prié cette semaine et voici ce que le Seigneur m'a dit. Je lui pose la question, Seigneur, et je lui dis, tu sais, Seigneur, je m'inquiète beaucoup pour l'Église parce que je vois combien le monde et combien les événements présents touchent l'Église aujourd'hui et touchent notre comportement. Et donc, je pose mon inquiétude et puis je termine ma phrase par « Mais tu sais, Seigneur, c'est parce que je l'aime que je te dis ça. » Et le Seigneur a rattrapé la balle au bon. « Ah, il me dit, tu l'aimes ?» Et voici ce qu'il m'a dit. Toi, tu l'aimes, Bruno, certes, tu aimes l'Église. Mais tu ne l'aimes pas comme je l'aime. Tu as sacrifié beaucoup de choses pour l'Église. Tu t'es dépouillé pour elle. Tu as enlevé quelques habits. Mais moi, j'ai tout abandonné. Toi, tu n'as fait qu'enlever quelques pulls. Moi, j'ai été mis à nu. Et toi, tu ne l'as pas fait, Bruno. Il te reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour aimer l'Église comme moi, je l'aime. Et le Seigneur a ajouté, tu sais, Bruno, donc il m'a parlé à moi, maintenant je vous donne ce que Dieu vous dit ce matin. Tu sais, Bruno, mes enfants disent souvent qu'ils m'aiment et qu'ils aiment mon corps. Et souvent, certains disent qu'ils m'aiment alors qu'ils n'arrivent pas à aimer leur frère, qu'ils n'arrivent même pas à le supporter, qu'ils n'arrivent même pas à être à côté d'eux. Mais je ne regarde pas à ce qu'ils disent. Je regarde à leurs œuvres, à leurs sacrifices, à la bonne odeur de leur consécration. Ce sont là les preuves de leur amour pour l'Église, à mon sens, dit le Seigneur. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, que veux-tu que je change ? Que veux-tu que je change ? Et le Seigneur m'a répondu, m'a renvoyé vers la parabole du fils prodigue. Il m'a dit, regarde le fils aîné. Ne te comporte pas uniquement comme un fils qui fait des actions. Sois un fils de relation. Le problème du fils aîné, m'a dit le Seigneur, c'est sa relation avec le Père. Le fils aîné cherchait la récompense au mérite et non dans la relation. Il était dans l'activité et non dans la relation. La motivation du fils aîné s'appuyait sur son besoin de reconnaissance. Est-ce que tu vas... Permettez-moi, j'espère ne pas vous choquer, faire caca de ton besoin de reconnaissance en courant vers les buts de Dieu. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est mis à nu. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ayez les mêmes sentiments. J'espère que ça fait écho dans votre cœur. En tout cas, moi, ça fait écho dans le mien. Le deuxième point pour devenir un disciple, c'est ta motivation. Est-ce que quand tu fais les choses, c'est pour te faire plaisir ? Ou est-ce que c'est pour faire plaisir au Seigneur ? Et je vous assure, prenez le temps de méditer là-dessus, placez-vous devant le Seigneur. Je ne veux pas mettre un poids d'accusation, vous dire que vous êtes que des mauvais et que je le suis aussi, mais quand même. Il y a parfois des choses que nous faisons pour notre plaisir personnel et pas pour lui faire plaisir. Les chiens sont heureux, c'est ce que les mûcheurs nous ont dit. Avant de partir, leur dit surtout, encouragez-les et manifestez-leur votre satisfaction. Parce que c'est quand vous manifestez la satisfaction que le chien est heureux. Le chien est heureux uniquement si le mûcheur est heureux. Et ça prouve leur amour pour leur maître. Voici, dit, il y a tant d'années que je te sers, dit le fils aîné, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Voilà. On touche ici un problème fondamental, mes frères et mes sœurs. C'est lorsque nous cherchons à nous faire plaisir à travers le service dans l'Église. Et ce désir de se faire plaisir, c'est ça qui engendre les conflits. C'est ça qui engendre les problèmes entre nous. Parce que nous n'arrivons pas à satisfaire notre plaisir. Donc nous disons que la responsabilité revient aux autres, que la faute revient aux autres. Alors qu'en réalité, si à un instant on réfléchissait et qu'on changeait de comportement, et qu'on se disait, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais faire les choses pour faire plaisir au Seigneur, Là, ça va changer. Ça va, je ne vous perds pas. Le troisième point, c'est ton unité. Ce que tu veux, ce que tu as envie, ou ce qu'il veut. Les chiens sont liés ensemble et reliés aux mûcheurs par l'attelage. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment... Enfin, c'était un peu perturbant au départ, parce qu'en fait, vous avez deux pédales. Une pédale pour freiner. C'est comme un plateau qu'on pose sur le... Vous savez, sur la neige, et ça freine un peu. Et puis un deuxième, c'est carrément avec des dents qui s'enfoncent dans la neige, voire dans la glace, et ça stoppe l'attelage en quelques secondes. Et c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait, dès lors que je freinais un petit peu, le chien sentait le freinage et il ralentissait. Et dès lors que j'appuyais sur le frein total, il stoppait. Et ça, j'ai vraiment aimé ça, parce que il y a dans leur cœur vraiment une vraie coordination. D'ailleurs, vous remarquerez, enfin, j'espère qu'un jour vous ferez du chien de traîneau. Parce qu'avec le réchauffement climatique, il faut en profiter. Mais il y a le leader, un co-leader, ceux qui tirent derrière. Nous, on en avait 5. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, le co-leader, il est passé devant le leader. Il s'est fait reprendre à l'ordre. Mais quand je dis reprendre à l'ordre, il s'est pris un coup de dent par le leader. Il lui a dit, reste à ta place. Et j'ai aimé ça. J'ai pas trouvé ça violent. J'ai dit, waouh, quel respect il a eu. À un moment donné, le leader s'est dit, c'est moi qui dirige. Parce que moi, je suis à l'écoute de celui qui est derrière. Bien que je ne parlais pas norvégien. Ok. Et puis, il y a une autre chose qui m'a beaucoup touché, c'est que lorsque le convoi s'arrête, ils aboient. Ils s'exclament. Ils disent, mais pourquoi sommes-nous arrêtés? Nous n'avons pas atteint le but. Et ensemble, je peux vous dire, c'est impressionnant. Le premier attelage s'arrêtait, le second s'est arrêté, le troisième s'est arrêté, et dès que le convoi était à l'arrêt, ils se mettaient à aboyer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est assis, on ne bouge pas, on ne fait rien, alors que notre but, c'est d'arriver à atteindre les buts que le mûcheur nous a fixés. Mais mon Dieu, qu'attend l'Église pour se lever ensemble et prier ensemble et intercéder ensemble et crier? Mais pourquoi n'avançons-nous pas vers les buts de Dieu? Pourquoi ce peuple est-il aussi là, aussi peu motivé, aussi peu enclin à se réunir ensemble et vivre les choses ensemble? Vous avez vu peut-être le message que j'ai envoyé sur Signal ce matin et par mail, pour ceux qui l'ont reçu. C'est pour ça que je l'ai envoyé. C'est parce que le Seigneur m'a dit, mais mon Église, c'est ma sainte convocation. Et mon peuple est appelé à vivre ensemble, à être ensemble, à prier ensemble, à élever la voix ensemble, à louer le Seigneur ensemble. Ça veut dire que si je me mettais là, mais je le ferais pas parce que je suis un piètre pianiste et un piètre chanteur, mais normalement, dès que quelqu'un entend le premier chien du premier attelage crier, les autres se mettaient à crier. Il y avait une osmose, il y avait une unité dans ce groupe. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi l'Église n'est pas comme ça? Et le Seigneur m'a répondu, deviens comme lui. Observe et deviens comme lui. Pourquoi Dieu, pourquoi Salomon déclare-t-il à un moment donné, j'ai observé et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Mes frères, mes sœurs, observez les chiens de traîneau. Observez-les. Tirez instruction et changeons de comportement. Vous savez, Paul dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Nous avons une vocation d'église. Je convoque. on devrait s'appeler « Je convoque ». L'Éternel a convoqué. L'Éternel a appelé. L'Éternel nous interpelle et nous appelle à l'unité, en toute humilité. Mais bien sûr qu'on a besoin de ça. Mais bien sûr, mes frères et mes sœurs, que j'ai besoin encore, pas de grandir dans l'humilité, mais de rentrer dans la terre de l'humilité. Bien sûr que tu as besoin de ça. Enfin, la personne qui me dit ça, non, j'en ai pas besoin, ben, viens me voir après. Avec douceur. Combien parfois on peut être violent entre nous, à travers les mots, les paroles, n'est-ce pas? Combien on peut être violent dans les comportements? Avec douceur, avec patience. Mais oui, il y a personne de parfait ici. Enfin, on est parfait en Christ, mais on n'est pas parfait dans nos comportements. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi, à un moment donné, Ésaïe, dans le temple, Ésaïe chapitre 6, il voit la gloire de Dieu, mais la manifestation de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté. Les anges sont là et disent l'un vers l'autre. Est-ce que vous comprenez dans le temple ce qui se passe? L'ange dit à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et il joue au tennis spirituel. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, dit à l'autre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et normalement, l'Église devrait répondre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, les enseignements qu'on nous apporte, c'est nous devons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Moi, je dis, je veux voir la manifestation de la sainteté de Dieu. Je veux voir la sainteté de Dieu. Je veux que Dieu me touche et qu'il me fasse prendre conscience de qui je suis et que je comprenne que j'ai malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures et j'ai vu le roi et je suis un homme qui mériterait la mort. Alors l'ange s'approcha avec le charbon ardent. Il posa cela sur les lèvres d'Ésaïe et il lui dit « Ton iniquité est expiée en Christ, mes péchés sont purifiés. » Mais pourquoi l'ange s'est-il approché? Parce qu'à un moment donné, il y a une déclaration de la part d'Ésaïe qui a dit « Malheur, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et souvent, nous réclamons la présence de Dieu alors qu'elle est là. Parce que je vous rappelle à juste titre que le Saint-Esprit est en vous et donc la présence de Dieu est là. Souvent, nous réclamons la manifestation de la présence de Dieu. Nous réclamons la puissance de Dieu pour la guérison. Et j'entends, je veux voir ça. Mais la première manifestation que nous voyons lorsque Dieu se montre, c'est sa sainteté. La sainteté de Dieu se manifestant. Et vous savez, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité est souvent mise à mal parce que lorsque nous mettons en avant ce que nous voulons, ce qui nous donne envie, plutôt que de rechercher ce que Jésus veut. Je répète, souvent l'unité est mise à mal lorsque nous nous mettons en avant, lorsque nous voulons vivre ce que nous avons envie, plutôt que de chercher ce que lui veut. Je répète, ça, c'est pas de moi. Si, c'est un peu de moi quand même. L'unité est souvent mise à mal lorsque nous recherchons ce que nous avons envie. Satisfaire mon envie, ce que je veux. Oh, mais tu comprends, hein. Moi, je veux ça, hein. Et je t'intéresse que tu me le donnes, hein. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, j'exagère mais c'est un peu ça qui se passe dans notre cœur. Alors qu'en réalité, ce qui nous importe, c'est de connaître ce que le Seigneur veut. Qu'allons-nous faire pour devenir comme lui, comme roc, comme le chien? Moi, cette semaine, j'ai pris la décision de rechercher ce dont les autres ont besoin. Peut-être que vous allez avoir des conversations avec vous, les uns avec vous. Peut-être que c'est votre femme, votre belle-mère, votre mari, vos enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose autour de vous? Et si vous voulez bouger, eh ben, allez-y. Qu'est-ce que tu as besoin? je vais le faire pour toi. Le deuxième, je vais rétablir une relation avec le Seigneur, prendre du temps avec lui et méditer sur le cœur du fils aîné. Allez relire le passage du fils aîné. Regardez l'attitude du fils aîné. Et normalement, vous devriez vous retrouver dans la glace. Je dis bien normalement, à moins que vous soyez parfait. Et si besoin, je me repentirai. Si besoin, je vais me repentir. La troisième, c'est que je vais me relier aux autres. Je vais enfin vivre l'Église, je convoque. L'Église, c'est mon corps, mon assemblée. Je vais accepter les différences. Vous allez devoir accepter qui je suis. Et je vais devoir accepter qui vous êtes. Je vais devoir accepter votre imperfection et vous allez devoir accepter mon peu d'imperfection et ma grande humilité. Oui, je vais me relier aux autres et je vais enfin leur faire confiance. Je vais accepter les différences et si besoin, je vais pardonner ceux qui m'ont piqué mon os. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui nous piquent nos os. Mais c'est mon os, c'est mon service, c'est ce que je crois. Et souvent, on cherche à le récupérer. Donne à celui qui veut, Jésus dit, et pardonne ce qu'il t'a fait. Et maintenant, tous ensemble, nous allons nous lever et nous allons proclamer, exclamer. Nous levons-nous et proclamons la gloire de notre Seigneur. Proclamons que nous voulons entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour nous en tant que corps. Je convoque, dit le Seigneur, car nous n'avons pas encore atteint le but. Nous n'avons pas encore atteint ce que le Seigneur nous a donné. Et le peuple de Dieu doit, à un moment donné, comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Alors, la fin de la rencontre, il faut que je vous la partage. Ça a été aussi fort qu'à l'aller, si je puis dire. On est allé dans une tente Samy. On a pris un café qui était franchement dégueulasse. Mais il avait la vertu de nous réchauffer. Et puis, avant de repartir, avant de déposer ma combinaison grand froid, je suis allé voir Rock. Et Rock siégeait sur... Il était assis sur sa niche et il dominait son environnement. Et là, il m'a fait penser à Jésus régnant sur son trône et observant. Alors je me suis approché et je m'attendais à ce qu'il fasse la même chose. Vous voyez, il se dresse sur ses pattes arrière. Et là, il est descendu. Il est venu jusqu'à moi. Il s'est assis. Je me suis agenouillé à ses pieds. Et le Seigneur m'a dit, maintenant tu as vu, deviens-le. Mon modèle, forcément, c'est Rock, mais c'est qui au fond ? C'est Jésus, celui qui avait toute la gloire, qui est venu et qui m'a montré le chemin. Deviens-le. Et le Seigneur m'a demandé de vous le partager. Afin que tous ensemble nous devenions de vrais disciples. Des disciples dont il n'aura pas à rougir. Seigneur, donne-moi, c'est ma prière. Après, vous priez comme vous voulez. Je sais peut-être que j'ai bousculé certains d'entre vous, mais ça m'importe peu. J'ai obéi au Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que ce que j'ai vu là-bas, je veux le vivre là. Je veux devenir un disciple. Que le Seigneur n'a pas envie. J'ai pas envie qu'il rougisse de moi. J'ai pas envie de me retrouver face à lui et de dire « J'avais vu et je n'ai pas fait, Seigneur. » Voilà ce que je vous partage. Et je vous invite à y aller. C'est tellement beau. Un attelage, un convoi d'hommes et de femmes qui se dirigent vers le Seigneur et vers les buts du Seigneur. C'est tellement beau. C'est tellement grand. C'est tellement... Je remercie Maryse de m'avoir emmené là-bas. S'il y a bien une chose que je n'aurais pas voulu manquer, c'était ça. Qu'allez-vous devenir en Christ? Quelle sera votre définition de l'Église maintenant? Voilà, je me lève, j'élève les mains vers toi, Seigneur. Et je te demande, donne-moi de devenir un disciple. Donne-moi de devenir un homme selon ton cœur. Je veux lâcher mes besoins personnels pour me mettre au service des autres. Je veux m'en consacrer. Et je veux que cette consécration soit quelque chose qui réjouisse ton cœur, vraiment. Quelque chose qui réjouisse ton cœur de Père. Je veux vraiment te dire, Seigneur, que je veux te faire plaisir. Et que mon cœur désire t'honorer, te faire plaisir dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais. Et je veux enfin te demander, Seigneur, parce que j'ai plus envie de faire ce que j'ai envie moi, mais j'ai envie de faire ce que toi tu as envie. Alors je viens devant toi, Jésus. Je te demande de purifier, de laver. Je te demande d'ouvrir mes yeux sur toi, mon modèle. Le vrai modèle, c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi Paul dira, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. J'aimerais que ici, te demander qu'ici il y ait des personnes dont on a envie de suivre parce qu'elles te ressemblent, parce qu'elles suivent ton modèle. Je le demande par Jésus Père. Amen.